Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. À Maritsou, nous poursuivons notre lecture cursive de Saint Jean. Nous en sommes au chapitre 17, chapitre qui est sans doute le sommet du discours après la scène. Ici, Jésus nous introduit au cœur de son mystère. Ce chapitre est sans doute un bond vers l'éternité. Une entrée dans une totalité ouverte. La totalité de la relation offerte. Pour goûter tout ceci, du temps et du silence nous seront nécessaires, sans doute. Et pour nous y aider, je vais relire le chapitre 17. C'est un moment d'intimité. Intimité à laquelle Jésus veut nous associer, et c'est cela qui est inouï. Quelques mots-clés avant la lecture. La joie, l'unité, que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Et puis ces mots du début du chapitre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et puis toutes ces répétitions, comme par exemple « toi en moi, moi en toi ». Le père José ne disait-il pas à quel point ces chapitres ont quelque chose de musical? Voici donc le chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi et que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie, dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Et qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Nous nous sommes replongés dans l'ensemble de ce chapitre 17 que vous avez déjà commencé à commenter dans la dernière émission, mais je voudrais souligner deux versets, Père José, le verset 20 et puis le verset 24. Le verset 20, c'est « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. » Et puis, le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. » Encore une fois, une allusion à cette divinité de Jésus. Que dire de ces deux versets ?
Je crois de nouveau, au centre de ces deux versets, il y a le vœu de l'unité, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Je crois que l'unité, loin d'être la solitude, est au contraire la plénitude de la relation. La plénitude de la relation entre Dieu et son Fils, et c'est dans cette relation plénière que Jésus veut nous intégrer, nous y mêler de la façon la plus intime. Il veut que là où il est, nous soyons présents aussi. Nous sommes invités pour l'éternité à vivre en plénitude le mystère même de Dieu, mystère d'amour, non pas, je redis, dans la solitude, mais dans la relation la plus riche, la plus pleine, la plus totale. Au fond, en Dieu, il y a unité et relation. Dieu est relation, il n'est pas solitude. Je souris toujours en pensant à cette définition. Dieu, ce géant solitaire, ce grand célibataire des mondes, disait Chateaubriand. Oh, Dieu est le contraire de cela. Dieu est essentiellement relation ouverte à l'infini et ouverte en lui-même et à tous.
Mais sans nier la paternité, la filialité et l'esprit. Ah, ce n'est pas simplement une égalité entre les personnes.
C'est une unité organique.
Qu'appelez-vous organique ?
Eh bien, elle est articulée sur le jeu de la relation. C'est l'unité par le Fils dont nous avons découvert la lumière, ou dont nous découvrons la lumière, le Fils qui est splendeur, beauté, création. Cette lumière dans le Fils se réalise par l'Esprit, l'Esprit qui est vie, l'Esprit qui est partage et vie.
Avec cette origine, le Père qui est l'origine de tout cela.
L'origine, la source, oui. Et le terme, il est les trois à la fois.
Je pense que le XXe siècle et le XXIe a souvent évacué justement cette dimension de filialité. Et n'est-ce pas un des manques de notre époque ?
Mais je crois en effet que le XXe siècle s'est méfié du mot père et de toute paternité. Depuis Freud, au fond, et que nous avons à redécouvrir la richesse créatrice de la paternité de Dieu. Dieu est Père parce qu'il engendre sans cesse. Il engendre, mais il engendre dans l'amour, pas dans la domination.
On a réduit la paternité à la domination, tout simplement, à ce qui écrase, à qui...
Tout à fait. Or, Dieu n'engendre que pour mener à la liberté. La liberté est essentielle. Et Dieu nous veut libres face à lui.
C'est quelque chose qui est véritablement contraire à cette nostalgie que nous avons, la nostalgie de l'abandon de notre liberté, être finalement libéré de notre liberté, et non pas face à Dieu en tant qu'être debout. Nous aimerions bien nous agenouiller finalement et nous soumettre. Il y a chez nous cette espèce de nostalgie de l'abandon de notre liberté. Dostoïevski l'a bel et bien développé.
Et le Père nous prend par la main et nous remet debout dans la liberté la plus totale. Amour et liberté.
Amour et liberté, et vous vous plaisez, Père José, à dire au fond que la dernière note de cette symphonie, des chapitres 13 à 17, c'est encore le mot amour, justement.
Le mot amour qui revient donc plus de 30 fois. Amour ou aimer.
Mais nous allons faire une pause musicale encore une fois, Père José, avec Haydn, l'opus 76, numéro 4. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean et nous sommes à la fin du chapitre 17, juste avant l'arrestation de Jésus et le début donc de la Passion. Nous n'allons pas y entrer tout de suite, Père José. Et pourquoi ?
Mais il me semble que ce discours de la Panassène et surtout la cadence qui le termine, le chapitre 17, est un tel sommet. Nous sommes au terme de cette ascension de la parole de Jésus. Il nous a livré le dernier mot, il nous a introduit dans le cœur la clé de son mystère, et il me semble que nous devons nous laisser imprégner par cette parole pendant un certain temps de silence. Donc je ne serais pas enclin à passer tout de suite, ce qui serait d'ailleurs un retour en arrière, au récit de l'arrestation, de la passion, de la mort et même de la résurrection de Jésus. Il me semble que ces événements-là appartiennent un peu au passé de l'histoire terrestre de Jésus et que nous avons dépassé ce passé dans ce discours qui nous a orientés vers le futur, vers l'éternité, dans une parole éternelle, dans ce que j'ai appelé la prière éternelle de Jésus, qui ne cesse d'adresser à son Père le même appel pour nous tous, pour l'humanité tout entière, en qui il voudrait se récapituler.
Au fond, vous dites que entrer dans cette manifestation, entrer dans cette révélation, entrer dans cette invitation à changer, à cette conversion, demande du temps et du silence.
Du silence. La parole de Jésus continue de résonner dans un immense silence, mais plein de vie, et de lumière.
Au fond, nous revenons à cette fameuse scène de Élie à l'Horeb.
Oui, où tout s'efface, sauf le silence ténu, oui. Oui, tout à fait.
Et où l'essentiel, finalement, se dit dans ce silence ténu, ou, pour reprendre votre traduction, Père José, dans le silence tenu,
oui,
comme un musicien peut tenir une note ou tenir un silence.
Nous revenons alors au thème musical. Oui. Tout à fait.
Et il y a au fond, dans l'économie de l'évangile de Jean, il y a toute une progression, il y a toute une série de rencontres, et puis il y a ce début, cette symphonie qui commence au chapitre 13 et qui culmine au chapitre 17. C'est finalement une sorte d'anticipation, un petit peu, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, comme si on faisait un bond vers l'éternité.
Oui, je crois, c'est une prière éternelle. Et donc, je rappelle le mouvement général de tout ce discours, Jésus qui commence par être cerné par ses disciples qui l'étreignent par une affection trop étroite et trop angoissée.
On peut les comprendre, ils sont affolés.
Et Jésus qui se dégage, qui tente de les mener vers son propre chemin, et puis qui se dégage, se lève et s'élève dans sa parole, c'est le début de son ascension, c'est le milieu du discours, pour enfin terminer dans le face-à-face apparemment solitaire avec le Père, dans lequel il nous entraîne, et dans lequel il mêle notre vie nouvelle, notre vie accouchée.
Et c'est bien cette révélation qui est inouïe, en quelque sorte.
Il n'y a pas moyen d'aller plus loin dans notre prière, notre foi et notre méditation que ce chapitre, où nous savons que Jésus est provisoirement seul à prier son Père, mais qu'il ne pense qu'à nous. C'est extraordinaire que dans ce face-à-face avec ce Père retrouvé, Jésus se retourne en disant « et eux ».
Pour vraiment nous entraîner avec lui.
Tout à fait. Et nous, pas confondre, mais nous mêler à son unité avec le Père. Ça, je trouve ça extraordinaire. Jésus ne peut pas nous mêler plus profondément à son être et à sa vie que par cette parole.
C'est bel et bien la liberté de l'humain, la liberté de l'homme, c'est bel et bien la conception de la liberté évangélique.
La liberté qui ne referme pas sur soi, mais qui ouvre à tout et à tous. Cette liberté qui nous rend capables de la relation et du partage. C'est celle de Dieu. Dieu n'est qu'amour, partage, donc non de soi.
Et au fond, le grand message de l'Évangile, c'est que nous sommes capables.
Nous sommes aimés de Dieu et grâce à cela, capables d'aimer à notre tour comme lui a aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est une phrase, un commandement terrible.
Terrible, pourquoi ?
Terrible parce que il demande la totalité de notre cœur.
Donc cet élan, ce désir de totalité, il est ici rencontré.
Et c'est une totalité ouverte. Donc, une totalité qui n'est pas du tout centrée sur soi ou sur le pouvoir. Une totalité de la relation offerte. Je crois que nous devenons, par l'appel de Jésus et de son Père, nous devenons pour l'éternité des êtres de relation, comme Dieu est relation. C'est en cela que nous devenons définitivement semblables à Dieu.
Cette totalité ouverte, Père José, ça me fait un peu penser à la grande image, à la grande réalité de l'univers en expansion, d'autant que des recherches récentes semblent attester que cette expansion s'accélère.
Oui, tout à fait. Et cette accélération vertigineuse qui nous fait perdre pied, je crois qu'elle nous conduit, elle nous ouvre à une intuition de l'infini. Nous allons vers l'infini, et c'est normal. Puisque l'infini a un nom pour nous, il est Dieu. Dieu est totalité en ce sens. Non pas totalité fermée, mais totalité incroyablement multiple et ouverte.
C'est bien sur ce paradoxe, ce mystère, que nous allons terminer cette émission pour aujourd'hui, Père José, et inviter nos auditeurs à la méditation, au silence aussi, pour intérioriser cette proposition inouïe. Et on peut comprendre que nos frères, les disciples, n'aient pas compris grand-chose au point de départ.
Nous avons le même travail d'accouchement à faire qu'eux ont fait, c'est-à-dire à découvrir de plus en plus la vie en esprit.
Et donc l'accouchement n'est pas terminé.
La création tout entière est en état de gestation, d'accouchement.
C'est là-dessus que nous allons terminer, Père José, de nouveau avec Joseph Haydn, son opus 76, numéro 4.
Merci.
Merci et à très bientôt. À vous, amis auditeurs, encore un mot. Après l'enregistrement de cette émission, où le Père José disait toute son émotion devant ce sommet de l'Évangile, j'ai respecté son souhait. 5 semaines se sont passées. Puis nous avons repris nos entretiens. Et cela par la magie de la technique et du différé. La diffusion de ces lectures cursives, pour vous, ne sera donc pas interrompue. Elles se poursuivent donc selon le rythme habituel. Merci, merci de votre fidélité dont j'ai des échos et c'est pour nous un réel encouragement. Au revoir, à bientôt.
Thank you.